Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du Local. C'est l'agité du local que vous retrouvez toute l'année de septembre à juin, mais qui passe en mode été, comme son nom l'indique, avec un format un peu plus court que d'habitude, plutôt une dizaine de minutes, un peu moins en lien avec l'actualité, mais toujours sur celles et ceux qui font bouger le département, c'est un peu notre credo. Et tous les lundis, on retrouve la chronique histoire et historique de Christophe qui nous propose une balade à travers le département, et à travers les siècles et les dates aussi. Et après avoir navigué sur la rivière Mayenne la semaine dernière, cap sur Château-Gontier aujourd'hui. Bonjour Christophe.
Bonjour. Après avoir descendu la Mayenne vers le sud, aujourd'hui je vous emmène à Château-Gontier en l'an 1007. Bon, alors en 1007, à l'endroit où se trouve actuellement la ville de Château-Gontier, il n'y a rien. À 2 km à l'ouest, à l'endroit qui deviendra le village de Bazouges, il y a bien une exploitation agricole. Mais au bord de la Mayenne, il n'y a strictement rien. Et celui qui décide d'y installer quelque chose, en l'occurrence un château, ce n'est pas Gontier, mais Foulques. Foulques Néra, Foulques le Noir, comte d'Anjou. Au début du XIe siècle, il est en train d'agrandir son territoire. Au sud, ses terres s'étendent jusqu'en Saintonge, à l'ouest, dans les Mauges. À l'est, il remonte la vallée de la Loire et va jusqu'à Blois. Sur sa frontière nord, il est en concurrence avec le comte du Maine, établi au Mans, mais aussi le duc de Bretagne. En 1007, Foulques tient déjà les châteaux de Sablé-sur-Sarthe et de Cran, mais entre les deux, il y a un couloir, la rivière Mayenne, couloir qu'il serait bon de fermer et de surveiller par un château. C'est la raison d'être du château, qui devient le château de Gontier, du nom de l'homme à qui Foulques confie dans un premier temps la garde du site fortifié. De Gontier, on n'en sait pas plus, car il ne reste pas longtemps en fonction, remplacé moins de 10 ans plus tard par Renaud, un petit seigneur local. Alors, à l'origine, le château de Gontier, c'est une tour construite sur le promontoire rocheux qui domine la rivière Mayenne. C'est autant un ouvrage militaire qu'un ouvrage de prestige, comme une borne destinée à marquer le territoire du comte d'Anjou au nord. Dans les années 1020-1030, Renaud, le gardien du château, a pour mission de la protéger par une enceinte, ce qui est fait, non sans difficulté, car les moyens financiers manquent. Au XIe siècle, le site fortifié de Château-Gontier joue son rôle de forteresse, mais pas contre le comte du Maine, dont le territoire est annexé à l'Anjou par le fils de Foulques Néra dans les années 1060. Non, Château-Gontier joue son rôle face aux Bretons. En 1066, Renaud II, le fils du premier Renaud, est assiégé par le duc de Bretagne, mais Château-Gontier reste en Anjou. À la même époque, une église dédiée à Saint-Jean-Baptiste et un prieuré, une sorte de petite abbaye, sont construits à l'ombre du château, histoire de relever le prestige du seigneur du lieu. Au XIVe siècle, au cours de la guerre de Cent Ans entre les Anglais et les Français, le château subit de multiples destructions. En 1414, un texte signale qu'il n'en reste plus grand-chose. Le château ne s'en remettra pas. Aujourd'hui, du noyau originel de Château-Gontier ne demeure que l'église Saint-Jean-Baptiste, même si elle aussi a subi au XIXe siècle de grandes restaurations qui l'ont profondément dénaturée. Du château, en tant que bâtiment, il ne reste rien ou si peu. Cependant, par-delà plus de 1000 ans d'histoire, subsiste le nom de Château-Gontier, le château de Gontier. À bientôt pour une prochaine balade historique en Mayenne.
Merci beaucoup Christophe. Et oui, lundi prochain, direction l'ouest et même le sud-ouest du département, les ardoisières de Renazé n'auront ensuite plus de secrets pour vous. On va passer à cette nouvelle série, évidemment, lundi, premier épisode de notre feuilleton consacré au laboratoire photo de l'association Le Kiosque à Images à Château-Gontier. Le club photo a été créé en 2005, dernières années où l'argentique a laissé de la place et une place de plus en plus grande au numérique, mais le labo photo, lui, est toujours en place et opérationnel. Il continue d'être utilisé, moins souvent, mais toujours, par de jeunes photographes intéressés pour découvrir cette technique, ou bien par des membres de l'association avec un peu plus d'expérience, désireux d'obtenir ce grain si caractéristique de l'argentique. Je propose une petite visite guidée du labo avec Frédéric Beer. Il est membre du Kiosque à Images depuis ses débuts.
Alors nous sommes dans le labo photo, hein, qui avait été créé, en 2005, en fin de compte. Auparavant, on avait quelque chose qui était dans l'ancien local de l'autre radio, à la Maillardière. Et puis, à l'époque, c'était le service jeunesse qui proposait un labo. Tout ce qui était argentique, en fin de compte, à l'époque, c'était uniquement en fonctionnaire en labo. Donc là, vous avez le labo. Donc on a des agrandisseurs sur lesquels on mettait les pellicules et sur lesquels ensuite, en fin de compte, une fois qu'on avait exposé le papier, c'est avant tout un objectif. Là, vous avez un support pour mettre la pellicule. Normalement, on mettait le papier qu'on voulait donc exposer. On fixait un temps de pause. Alors, il y avait différentes techniques pour évaluer le temps de pause. Et puis ensuite, en fin de compte, le papier, on l'amenait dans trois bacs. Dans ces trois bacs, il y avait la partie révélateur. Révélateur, comme son nom l'indique, qui révélait en quelque sorte l'image, quoi. C'était un peu le côté magique d'ailleurs de ce côté-là, parce que bon, en fin de compte, on voyait petit à petit apparaître l'image. Alors, j'oublie de dire que justement, on avait la lumière rouge, évidemment pour éviter que ça soit exposé à la lumière directement. Donc, on avait cette ambiance un peu particulière de lumière rouge. Alors ça, c'est des produits chimiques. Il y avait des marques, ouais, c'est vrai, dont certaines ont disparu d'ailleurs, mais bon, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur Internet. Et puis ensuite, on passait au bain d'arrêt. Donc, comme son nom l'indique, en fin de compte, ça arrêtait le processus de révélation sur l'image. Alors, il y avait un temps qu'il fallait quand même respecter, parce que bon, sinon, on avait, pour des histoires, en particulier, après, on passait dans le fixateur, et dans le fixateur, il y avait un certain temps aussi à garder, parce que, tout simplement, pour que la photo puisse se garder, quoi. Je pourrais revenir un petit peu aussi en arrière, parce que avant, bien sûr, qu'on passe à la partie papier, il y avait toute la partie aussi développement de la pellicule. Pour terminer, c'est vrai que maintenant, la partie développement papier, on le fait pratiquement plus, quoi, maintenant. Par contre, on a eu pas mal, en particulier de jeunes, qui étaient intéressés, parce que économiquement, il y a eu la période du numérique qui est apparu dans le club. Nous, il n'y avait plus grand monde à être intéressé par le labo. Le club a été créé en 2005. On a eu quand même 5-6 ans où on a continué jusqu'en 2010 à peu près. Puis progressivement, le numérique, il y a eu la vague du numérique qui est apparue vraiment de plus en plus. Et du coup, en fin de compte, on a fait progressivement, on est passé à une sorte de mixte. C'est-à-dire que il y avait des jeunes qui étaient intéressés parce que le numérique, ça avait un coût. Si on voulait avoir un bon appareil photo numérique, c'est encore le cas malgré tout. Et évidemment, comme le numérique a énormément augmenté, on pouvait trouver quand même des appareils argentiques qui, alors je vous parle dans les années 2005, 2010, etc., où les prix avaient énormément baissé. On avait des jeunes qui récupéraient ou qui rachetaient des appareils argentiques de bonne qualité. Et ça permettait, en fin de compte, on retrouvait toujours des pellicules. Et donc, ce qu'ils font et ce qu'on a fait, là, il y a eu la période Covid, mais avant la période Covid, où on refaisait des photos, et donc argentiques, on les développait dans des bobines, où on glisse la pellicule dans une bobine, dans le noir complet, avec un peu une sorte de stress, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis ensuite, on met ça dans une boîte dans laquelle, en fait, on a exactement le même processus, c'est-à-dire révélateur, bain d'arrêt, fixateur aussi. Et puis ensuite, on a la pellicule, si on ne s'est pas trop planté, qu'on peut avoir. Et puis, cette pellicule, en fait, on a aussi dans la partie numérique, donc qui est dans l'autre bâtiment en face, où on a un scanner qui permet de scanner en quelque sorte les photos qu'on a sur la pellicule et les numériser pour après les réutiliser avec des logiciels sur un ordinateur, comme on le fait pour des photos numériques lambda, quoi.
Et demain, on s'intéressera aux bobines et pellicules photo et aux différentes techniques, là aussi, d'utilisation. J'espère que vous n'aurez plus ensuite de questions par rapport à tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous donc demain pour un nouvel épisode, une nouvelle émission, l'Estival du local à 7h30 et à 12h15. Très belle journée.